Yann Prado, bonjour.
Bonjour, monsieur Taddeï.
Vous êtes professeur de mathématiques et vous publiez La guerre des nombres premiers chez Flammarion. Pourquoi une guerre ?
Ah, la guerre, parce que c'est une forme de bataille que mènent les mathématiciens contre le chaos qui semble gouverner les nombres premiers. Ça fait 2500 ans que les mathématiciens cherchent. Y a-t-il un ordre ? Y a-t-il une loi ? Y a-t-il une règle ? Et le grand Euler se désespérait de ne pas la trouver.
Mathématiques, informatique, économie, cryptographie, vous dites que les nombres premiers sont sur tous les fronts. Mais avant de nous expliquer ça, on voudrait comprendre pourquoi ils sont si importants, si stratégiques. Parce que les nombres premiers ont ceci de particulier, on le sait à peu près tous, qu'ils sont uniquement divisibles par 1 et par eux-mêmes. Comme 11, 13, 17 ou 19, voilà des nombres premiers. Bon, ok, mais après ?
Alors, ils sont premiers. Pourquoi on les a appelés premiers ? Parce qu'ils engendrent les autres. Et on doit à Gauss la démonstration de ce théorème fondamental. Tout nombre est composé et produit de nombres premiers. Donc c'est en ce sens qu'ils sont premiers. Si on devait garder que des nombres entiers, on garderait qu'eux et on aurait les autres, on retrouverait tous les autres par multiplication. Donc ils sont les atomes de l'arithmétique. Et vous avez cité 11-13, mais prenons celui qui est entre les deux, 12 qui n'est pas premier. Pourquoi les œufs sont vendus par boîte de 12 ? Parce que 12 est divisé par 2, par 3, par 2 fois 2, par 2 fois 3. Vous voyez, on retrouve 2 et 3 dans cette boîte 2.
Et pourquoi le 7 revient-il en permanence ? Les 7 jours de la semaine, les 7 collines de Rome, Blanche-Neige et les 7 nains, les 7 samouraïs, les 7 mercenaires. 7, c'est un nombre premier.
C'est un nombre premier, puis vous en avez oublié un, qui est les 7 péchés capitaux.
Oui, bah oui. Et j'en ai oublié plein, il y en a énormément.
D'abord parce que, d'un point de vue, je dirais, cognitif, on a une perception qui devient très compliquée à partir de 5. C'est-à-dire, si vous voyez un groupe de personnes dans la rue et qu'on vous dit combien ils sont, d'un simple coup d'œil, vous avez du mal à dire au-delà de 5 combien ils sont. Donc 5, 6, 7, c'est la limite de ce que l'on peut évaluer d'un seul coup d'œil. Après, il faut compter avec ses doigts. Ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose, c'est... Alors ça, c'est l'hypothèse que je formule à propos des 7 péchés capitaux. C'est que comme il est premier et qu'on ne peut pas... il faut que les 7 péchés capitaux ont tous la même importance. Ils sont tous capitaux. S'il y en avait 8 ou s'il y en avait 6, on pourrait faire des sous-groupes pour les mémoriser. Vous voyez, quand vous apprenez quelque chose, vous divisez en 2, puis vous dites j'apprends ça aujourd'hui, puis j'apprendrai ça demain. Puis demain, j'ai autre chose à faire et j'oublie les autres péchés capitaux. Mais là, il y en a 7. C'est tout ou rien. On ne peut pas sous-diviser en péchés capitaux de première importance et péchés capitaux secondaires. Voilà. C'est l'une des hypothèses que je formule à propos des 7 péchés capitaux.
Alors théoriquement, il y a un nombre infini de nombres premiers, hein, mais il n'y a pas moyen de les reconnaître au premier coup d'œil. Est-ce que 221 779 est un nombre premier ? On ne le sait pas comme ça à première vue, on ne peut pas les prévoir non plus, et il n'y a toujours pas de suite logique.
Alors voilà, la suite logique, la recherche de la suite logique, vous posez votre première question, ça pose effectivement le problème, c'est que on peut vérifier qu'un nombre est premier, c'est déjà facile, mais s'il ne l'est pas, c'est compliqué. Donc déjà, cette question, on ne peut pas effectivement... le meilleur moyen serait d'en conserver la liste et de les comparer, ce qui n'est pas terrible comme solution. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, ils sont infinis, on ne peut pas en conserver la liste. Alors oui, si on avait une suite logique, et puis si... comme les nombres pairs, par exemple. On pourrait rentrer dans notre nombre et voir s'il correspond à la suite logique, s'il est dedans. Et on ne peut pas. On ne peut pas pour l'instant. Donc, ils apparaissent comme ça et ils posent d'énormes problèmes du fait de leur infini. Ils posent d'énormes problèmes de taille. Ils sont très, très grands. Et à partir de très vite, on n'en a plus. On a des listes, hein. On a des listes, mais elles ne sont pas exhaustives très vite. Très vite, il y a des trous. Donc, il y a des nombres qui sont condamnés à l'anonymat, des grands nombres. Comme le dit Rémy Gobleau, ils sont tellement grands, ils sont premiers, ils sont dans un coin, on sait ils peuvent être par là, il y a une probabilité qu'ils soient là, mais on ne peut pas les déterminer avec, on ne peut pas les trouver par hasard peut-être, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il reste des. Et c'est pour ça que l'analogie qui me vient, c'est celle de l'espace, de l'astronomie. Vous regardez le ciel, quelle est la probabilité qu'il y ait une étoile à l'endroit où vous regardez, puis qu'il y a la probabilité qu'il y ait une planète. Donc, il y a comme ça des pans entiers du ciel nocturne qui nous est inconnu. J'ai tendance à voir les nombres premiers de cette manière-là.
On fait une pause, Yann Prado, et on y revient tout de suite après. Vous allez nous expliquer pourquoi on a tellement besoin aujourd'hui des nombres premiers.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé demain. Heures, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Yann Prado qui publie La guerre des nombres premiers chez Flammarion. Il faut dire que là, nous nous parlons via Internet. Et quand vous vous êtes connecté sur Internet, vous avez eu de grandes chances d'y rencontrer un nombre premier, hein.
Il y a de grandes chances déjà parce que pour sécuriser les connexions sur Internet, il nous faut des systèmes rapides, faciles à mettre en œuvre et solides. Et les nombres premiers sont intervenus ou interviennent dans ce système. Quand on fait un achat sur Internet via sa carte bleue, les cartes bleues, le système passe par les nombres premiers. Et donc, il y a une histoire célèbre d'un ingénieur qui avait décrypté le système, qui avait factorisé la clé publique des nombres premiers, enfin la clé publique du groupement interbancaire qui reposait sur ce système qu'on appelle le système de cryptographie RSA. Du nom des trois inventeurs, qui sont trois mathématiciens américains, Rivest, Amir et Adelman. Donc, ce système repose justement sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si j'ai deux nombres premiers, je peux les multiplier entre eux, c'est très facile, n'importe qui peut le faire, avec un petit peu d'huile de coude. Par contre, si j'ai un nombre et que je veux savoir s'il est premier et s'il ne l'est pas, savoir quels sont les facteurs premiers qui le composent, là, c'est très compliqué. C'est le principe du tube de dentifrice. Il est beaucoup plus difficile de faire rentrer le dentifrice dans le tube que de le faire sortir.
Oui, c'est un peu
Et
ça.
donc le système RSA est basé là-dessus. Voilà, le système RSA est basé sur cette difficulté. C'est pour ça qu'on parle de système à clé asymétrique. Et on le rencontre, donc les cartes bleues se servent de ce système-là. Et on le rencontre. Ne serait-ce que dans les prémices d'une communication Internet, quelque part, il y a un nom premier. Donc, à partir du moment où RSA est apparu en 1977, et je relate que ça a été assez compliqué, parce que la NSA s'en est mêlée tout de suite, hein, c'était une arme, considérée que c'était une arme interdite à l'export, ce système-là. À partir du moment où le système RSA est apparu, effectivement, la cryptographie a pris une nouvelle dimension parce qu'il est simple et surtout, il permet d'éviter la transmission de la clé, qui est le problème principal que l'on voit dans le film sur Alan Turing, Imitation Game. Hein, que dans les systèmes à clé symétrique, si l'ennemi intercepte la clé, lit vos communications comme si elles étaient découvertes. Et vous ne pouvez pas le savoir. Le système RSA évite ce problème-là et c'est une idée absolument géniale pour ça.
Alors Yann Prado, effectivement, longtemps, les nombres premiers étaient de purs objets de recherche théorique, hein. Aujourd'hui, ils se retrouvent, comme vous le dites, en première ligne, sur le front de la cryptographie en général. Donc c'est indispensable sur Internet pour tous les paiements en ligne, pour le commerce, pour la banque, les affaires, les communications, la défense, la question de l'échange de clés est un point central de la cryptographie. Et dès qu'on parle de cryptographie, les militaires, le renseignement, la défense, le pouvoir n'aiment pas ça.
Oui, et puis ce que l'on sait, par exemple, sur donc le film Imitation Game dont je parlais, les informations qui ont permis de réaliser ce film ont été divulguées que très récemment. Ça date de 1997. C'est toujours couvert sous le coup du secret. Et d'ailleurs, même ce que je dis est toujours, il y a des choses que l'on ne sait pas.
Je rappelle que Imitation Game, ça racontait comment Alan Turing à Bletchley Park avait réussi à percer la machine Enigma grâce à laquelle les Allemands cryptaient tous leurs messages.
Voilà, c'est ça. Et donc là, on est déjà dans un système mécanique à clé symétrique. La clé est en théorie, elle était en théorie indéchiffrable, mais une erreur humaine a fait que ça l'est devenu. Et le système RSA évite ce problème. Et ça a été, c'est absolument génial. On évite le problème de l'échange des clés.
Le système RSA, donc, qui date de 1977 et qui est basé sur les nombres premiers, ce qui rend les nombres premiers extrêmement précieux aujourd'hui. Vous racontez, Yann Prado, par exemple, qu'on peut acheter des nombres premiers.
Alors, c'est devenu, effectivement, le RSA, le système RSA a été breveté et c'est une entreprise aujourd'hui de cybersécurité qui vend des solutions de sécurité informatique et notamment qui vend des noms premiers ou pseudo-premiers. Il y a donc une forme de nombre premier industriel. Donc, ce ne sont pas complètement des noms premiers, mais qui sont compliqués et qui passent à travers certains tests. Donc, ils sont très faciles à produire. Et on peut les vendre. Donc, c'est devenu effectivement un business. En tous les cas, c'est un business model. Et à partir du moment où il y a RSA, les communications, les entreprises de communication se sont engouffrées. Donc, il y a des grands laboratoires maintenant qui sont chez AT&T, l'entreprise de communication américaine, qui se préoccupent des nombres premiers. Et celui qui pourrait produire du nombre premier ayant la suite logique ou le moyen de production du nombre premier facilement et de manière rentable serait assis sur un système économique extrêmement intéressant. Alors, ça passe par, vraisemblablement, en tous les cas, l'une des solutions serait de passer par l'hypothèse de Riemann.
Qui est un très grand mathématicien, mais sauf que l'hypothèse de Riemann, personne n'a réussi à la démontrer jusqu'à présent.
Voilà, ça fait 150 ans qu'on la cherche et on sait qu'elle est centrale et fondamentale et ça fait 150 ans, ce qui nous ramène à la question départ. C'est la guerre des nombres premiers, c'est aussi la guerre contre le chaos qui semble régir les nombres premiers. Et en même temps, on perçoit bien qu'il y a un ordre. Donc, il y a l'aspect purement mathématique, théorique et pour l'honneur de l'esprit humain, comme disait Jacobi. Et en même temps, il y a l'aspect matériel qui est qu'effectivement, parce que le système RSA, le plus beau, c'est qu'il est sûr en pratique, mais pas en théorie. En tous les cas, on ne peut pas l'établir. Les noms premiers nous mélangent entre les grands mathématiciens qui se sont intéressés à ce sujet, Gauss, Euler, Riemann, Dirichlet, et puis des mathématiciens obscurs qui ont laissé leur nom sur un record, le plus grand nombre premier d'une époque. Voilà, donc ça reste toujours, il y a quelque chose de fascinant, je trouve, et quelque chose de fascinant parce que, vous le disiez, n'importe qui, même avec des souvenirs scolaires de mathématiques très très lointains, sait ce qu'est un nombre premier. C'était conceptuellement une simplicité extrême.
La guerre des nombres premiers, le livre de Yann Prado vient de paraître chez Flammarion. Merci Yann.
Merci Monsieur Taddeï, bonne fin de journée et bon dimanche.
Vous aussi. Et comme tous les dimanches, Nicolas Caro anime La Voix et Livre de 14h à 15h. Son invité d'aujourd'hui est Elsa Delachère. Et Nicolas nous emmènera dans la bibliothèque de Franck Tillier, l'auteur de La Faille. Et nous, on va fêter le 100e anniversaire des 24 heures du Mans, juste après ça.